Bien, bonsoir à toutes et à tous, et merci d'être venus pour entendre, écouter Yannick Hennel, qui va nous présenter ce soir son ouvrage Yann Karski, qui vient de paraître aux éditions Gallimard, dans la collection L'Infini. Gallimard, qui est l'éditeur de Yannick Hennel depuis quelques années, hein, puisque la plupart de ses livres ont paru aux éditions Gallimard. Alors, on va citer quelques titres. Évoluer parmi les avalanches, Introduction à la mort française, Cercle, publié en 2007, donc le précédent livre de Yannick Hennel seul, puisqu'il en a sorti aussi un récemment en collaboration avec son complice François Méronis, qui s'appelle Prélude à la délivrance, qui lui aussi donc a paru aux éditions Gallimard dans la collection L'Infini. Et le livre de 2007, donc Cercle, a été récompensé par le prix Décembre obtenu cette année-là. Il y a dans plusieurs des livres de Yannick Hennel un personnage, je crois au moins dans deux livres, un personnage qui revient, qui s'appelle Jean Deschelles, une sorte de double, on pourrait dire peut-être, qui est un personnage qui cherche à asseoir une certaine rupture, on va dire, avec les conditionnements sociaux, qui cherche à s'affranchir des conditionnements sociaux. Et c'est un souci qu'on trouve aussi dans une revue, parce qu'il faut aussi parler de ça, je crois, même si on n'a pas beaucoup de temps ce soir, malheureusement, une revue qui s'appelle « Ligne de risque », que tu animes avec François Méronis depuis 12 ans, je crois, aussi.
Oui, 12 ans.
12 ans. Et cette revue, elle a également un objectif. Alors, c'est une revue qui est à la fois ambitieuse et austère. Hein, je ne sais pas si j'ai un volume à vous montrer ici. Donc, voilà, elle est assez fruste de présentation et dense de contenu. Et c'est une revue qui également donc, a cette ambition de fustiger, de dénoncer certains renoncements, notamment du monde culturel, du monde littéraire. Et donc je voulais faire un petit peu un parallèle entre ce double qui circule dans deux des romans précédents, et puis avant d'arriver à Yann Karski, cette ambition de rupture qui semble être un peu, on va dire, à l'origine de l'ensemble de ton travail. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu te positionnes aujourd'hui dans le milieu littéraire et culturel auquel tu appartiens de plus en plus, et que d'une certaine manière, tu dénonces aussi d'une certaine manière de plus en plus, quoi.
Oh, l'ambition, l'objectif de cette revue, c'était pas vraiment de fustiger le milieu littéraire. Pour moi, le milieu littéraire n'existe pas. Je veux dire par là que ce qui existe, c'est quelque chose entre le médiatique et l'éditorial, mais ça n'a pas très grande importance au fond. C'est comme un corps de métier, comme tous les corps de métier. Je pense que ce qu'on a appelé le milieu littéraire, ça a existé au 19e siècle ou un petit peu encore au 20e. Dans l'équilibrage qu'il y a toujours eu entre, d'une part, les avant-gardes et, d'autre part, une certaine forme d'académisme. Je pense qu'aujourd'hui, l'académisme a à peu près avalé toutes les cases de la chose, et que les avant-gardes historiques, un peu dans toutes les disciplines, aussi bien les disciplines plastiques que cinématographiques ou littéraires, ont été... se sont arrêtés avec la fin de d'une certaine conception révolutionnaire, voilà. Donc je pense que le projet de Ligne de risque était plutôt, en tous les cas c'est ce qui nous anime, mes amis et moi, de s'interroger sur toutes les formes de liberté par la parole, et d'interroger toutes les traditions, au fond. Que ce soit la pensée juive, c'est ce qui m'anime depuis 4-5 ans, ce que Maurice Blanchot appellerait un judaïsme de pensée, que ce soit la pensée juive, ou la pensée védique, ou la pensée chinoise, taoïste. Donc on va interroger des penseurs, et au fond, on n'est pas loin de penser, mes amis et moi, qu'au fond... pardon. Qu'il y a peut-être plus de littérature dans des textes spirituels, je dirais, du premier siècle, comme les textes de la gnose. Il y a peut-être plus de littérature dans ces textes-là que dans les romans qui se publient en France et partout depuis 20 ans. Donc voilà, il s'agit de, pour nous de déborder en fait le secteur du littéraire. Pour moi, le littéraire ne se cantonne pas forcément dans les genres bien définis. Et au fond, comme je vous le disais, un texte de pensée, un texte spirituel, c'est peut-être là que le cœur même de la parole jaillit. Mmh. Et il en est de même pour la littérature. Quelqu'un comme Kafka avait très très bien compris ça, au fond, que la littérature n'était peut-être pas dans la littérature.
Et du coup, alors, c'est un questionnement du monde par le poétique, en certaine manière, que vous cherchez dans cette équipe éditoriale, enfin avec François Méronis.
Oui, c'est un questionnement. C'est vrai que on a eu des débuts un peu tapageurs, parce qu'on était très, comme ça, un peu rétifs et qu'on se posait la question de savoir s'il était possible d'être libre aujourd'hui. Enfin, je sais pas, moi, c'est la question que je me pose à chaque instant, au fond. J'en vois pas d'autre, au fond. Je pense qu'effectivement, un écrivain, moi, je sais toujours pas très bien ce que c'est qu'un écrivain, mais en tous les cas, je m'emploie à écrire constamment. Et je pense que c'est la question principale qui anime quelqu'un qui essaye d'avoir un rapport, disons, rigoureux avec le langage. C'est dans quelle mesure est-ce que le langage nous libère ? Nous libère de quoi ? Comment ? Est-ce que quelque chose est plus fort que tous les conditionnements ? Et effectivement, la question qui anime un livre comme Ligne de risque, elle est très proche de ça, c'est est-ce que quelque chose est plus fort que le mal ? Moi, c'est vraiment la question qui me traverse, et c'est pour ça que j'ai souvent recours à la philosophie ou à des textes, je dirais, plus effectivement de tradition spirituelle, parce que ça me nourrit, en fait, indépendamment de toute croyance. Moi, je suis fondamentalement athée, mais ça nourrit ce questionnement-là, sur la liberté, au fond.
Alors, avec Yann Karski, qui est présenté comme un roman, on pourra peut-être revenir sur cette acception très... très large, je dirais que c'est une notion qui est très hospitalière, que la notion de roman. Donc c'est Yann Karski, ce roman donc ne fait pas appel à un quelconque double, comme on a pu le voir dans des textes précédents. Il s'agit d'un personnage qui a vraiment existé, hein, donc Yann Karski, qui est mort il y a quelques années, en 2000, je crois.
En 2000.
C'est quelqu'un qui a traversé, on va dire. C'est vrai que ça paraît un peu galvaudé de dire comme ça, mais bon, des épreuves parmi les pires qu'on puisse concevoir, en tout cas, qui a traversé, qui les a observées, et qui a vécu lui-même dans sa chair des choses aussi très pénibles. Et j'ai envie donc de te demander, pour commencer à parler véritablement de ce livre, comment est-ce qu'il s'est imposé à toi? Parce qu'on a vraiment le sentiment que tu t'es approprié ce personnage, tu t'es approprié le sujet, tu t'es installé un petit peu à l'intérieur de lui-même, quoi.
Oui, ça s'est passé de deux manières. C'est vrai que jusqu'à présent, tu l'as souligné avec raison, je m'étais inventé une forme de double, enfin Jean d'Aichel, qui était une sorte d'extension poético-jubilatoire de moi-même, qui traversait comme ça des tas d'histoires. Et un jour, en 2005, pour être précis, au printemps 2005, j'étais en Pologne, à Varsovie. J'avais rompu avec beaucoup de choses, comme le personnage de mon précédent livre, Cercle, et je faisais à peu près ce que faisait ce personnage, mais c'était vraiment à l'envers, c'est-à-dire que j'écrivais quelque chose et je le vivais après. C'était pas une autobiographie, c'était tout le contraire. Enfin, ce que j'écrivais se réalisait. Et donc, je suis allé en Pologne parce que je voulais que ce personnage, parce que je m'interrogeais sur le ghetto. Je voulais voir, et je sais que c'était une aberration, hein, puisque précisément il n'y a rien à voir, je voulais voir les lieux de la disparition, et je voulais voir plus précisément les rues où le ghetto de Varsovie avait existé. Dans une ville où, comme vous le savez, le ghetto de Varsovie a été rasé, à l'intérieur d'une ville qui elle-même, Varsovie, a été complètement rasée. De sorte que quand je suis arrivé à Varsovie, sans trop de moyens, enfin comme ça, je vagabondais en Europe de l'Est en louant des voitures de location, d'hôtels minables, enfin ça, j'étais dans une espèce d'odyssée de fiction permanente, au fond, et le livre s'écrivait comme ça. J'ai passé deux journées presque hallucinées à essayer de retrouver avec des vieux plans les rues du ghetto, de l'ancien ghetto de Varsovie. Et de fait, ce lieu de la disparition, Ben, je me suis rendu compte d'une chose très simple, qu'on sait tous, au fond, mais encore faut-il en faire l'expérience, ce lieu de la disparition avait disparu. Donc j'ai fait l'expérience, pour le coup vertigineuse, je me souviens de deux après-midi d'une extase noire, au fond, que j'ai eue, j'ai fait l'expérience de la disparition de la disparition. Et ça a produit chez moi un effet, mais très très étrange. Enfin, à la fois, j'étais au bord du malaise, et j'avais des espèces de... comment dire, de sentiments très vifs que le langage pouvait presque racheter la chose. Enfin, il y a un mot comme ça dans la mystique juive, c'est le tikkun. Par le tikkun, on répare des choses. J'ai eu ce sentiment presque délirant qu'au fond, quelque chose, je ne sais pas quoi, pouvait se réparer par du langage. Et il se trouve que quelques années plus tôt, j'avais vu, comme peut-être beaucoup d'entre vous, Shoah, le grand film de Claude Lanzmann, et qu'à la 8e heure, je m'en souviens très bien, enfin, évidemment depuis je l'ai revu énormément de fois, c'est un film qui dure 9 heures à peu près, vers la 8e heure, après énormément de témoignages, tous bouleversants, est apparu un homme qui n'était pas un survivant et qui n'est pas juif, l'un des rares, peut-être le seul, je ne me souviens plus, dans le film, qui n'est pas juif, et c'était Yann Karski. Et cet homme se présentait comme un messager de la résistance polonaise. Et pendant 40 minutes, il raconte à Claude Lanzmann comment il est entré par deux fois en 1942, au mois d'août 1942, dans le ghetto de Varsovie. Et comment il a rencontré deux leaders juifs, comme il le dit lui-même, le chef du parti politique socialiste, enfin le Bund, parti socialiste juif, et un leader sioniste. Et comment lui, cet homme, qui était à l'époque un jeune homme, il avait 26 ans, c'était un jeune patriote polonais, très catholique, enfin très 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 croyant, très très patriote, comment cet homme qui pensait que son pays, la Pologne, était abandonné par les puissances occidentales, ce qui était vrai, comment cette Pologne était broyée entre Staline et Hitler, eh bien il va se rendre compte qu'il y avait beaucoup plus abandonné que la Pologne catholique, qu'il y avait beaucoup plus abandonné que lui-même, c'était les Juifs d'Europe. Et cette apparition de Yann Karski m'avait saisi, m'avait bouleversé par sa noblesse d'esprit. Enfin, en voyant cet homme, je me suis dit, voilà quelqu'un qui a une âme. C'est une chose très bête que je ne m'étais jamais dite avant. Et concernant quelqu'un, au fond, c'est même une question que je ne m'étais jamais posée, au fond. Et là, ce jour-là, je me suis dit, cet homme a une âme. Voilà ce que c'est qu'une âme. Et évidemment, j'ai voulu en savoir plus sur cet homme. Et bien des années plus tard, puis bon, voilà, je n'étais pas à la hauteur, au fond, je voulais écrire sur lui. Mais j'ai entassé de la documentation, et évidemment, ce sont des sujets qui sont bien trop grands, enfin, qui sont...
Tu avais déjà l'idée d'écrire sur lui quand tu as vu le film ?
Oui, avant Cercle.
Oui, d'accord.
Quand j'ai vu le film, ça a déterminé l'idée de, oui, comme je le disais tout à l'heure, de faire quelque chose pour lui.
Voilà.
Je dis comme ça, avec une simplicité un peu, peut-être un peu idiote au fond, mais je voulais faire quelque chose pour lui, ce qui était presque absurde. Et comme je ne sais pas faire grand-chose à part écrire des livres, je me suis dit, je vais écrire un livre sur lui. Enfin, mais ça me semblait... j'en étais tout à fait incapable, même, je dirais, spirituellement, au fond. Et puis, oser écrire quelque chose en rapport avec la Shoah, enfin, bref, c'était trop grand pour moi. Et en 2005, donc, l'une de ces fameuses après-midi dans le ghetto, m'est revenue en mémoire le visage de Yann Karski. Et je me suis dit, bon, j'étais en train de finir Cercle. Et je me suis dit, maintenant, c'est le moment, au fond. J'étais dans les lieux de la disparition où Karski avait vu ce qui avait transformé sa vie. Les lieux à partir desquels cet homme avait tenté, puisque c'est ça la grande mission de sa vie, il avait tenté d'aller porter le message des Juifs du ghetto de Varsovie jusqu'en Amérique, afin d'alerter la conscience des Alliés. Et à partir de là, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire plus sérieusement et à ne plus faire que ça pendant 3 ans, sans y arriver d'ailleurs. C'est comme ça que j'ai commencé à vouloir écrire ce livre. Les difficultés ont commencé parce qu'évidemment, La noblesse d'esprit de cet homme, comme je vous l'ai dit, faisait qu'il était impossible d'écrire un livre qui ne soit... mais qui ne soit pas lui-même un peu noble. Et je ne sais pas si mon livre est noble, mais en tous les cas, je savais très bien qu'il n'était pas possible que je lui consacre une simple petite biographie ou un simple roman qui tirerait parti de ce trop beau sujet, l'histoire du messager qui transporte le message le plus important du monde et qu'on n'écoute pas. C'est un sujet comme ça, scénaristiquement merveilleux, sauf que moi, je ne voulais pas profiter comme ça de ce... d'une part de cette douleur, de cette souffrance, et puis de quelque chose qui nécessitait beaucoup plus d'efforts. Enfin, il fallait que j'invente pour cet homme, pour ce sujet, pour son histoire, il fallait que j'invente une sorte d'écrin qui soit de l'ordre de la transmission. Du coup, j'ai commencé à me sentir une responsabilité, là encore, bien trop grande pour moi, parce que entrer dans l'histoire de cette transmission-là, c'était entrer dans l'histoire de la transmission de la mémoire de la Shoah. Et moi, je ne suis pas juif, je ne suis pas polonais, donc évidemment cette légitimité, il fallait que je la, puisque je ne l'avais pas, je veux dire biographiquement, il fallait que je la prouve à moi-même à chaque instant par de l'écriture. Donc j'étais forcé d'écrire un livre qui vraiment soit, je dirais, à la hauteur. Et voilà, c'est la raison pour laquelle le livre se présente sous la forme un peu étrange et peut-être déconcertante d'un triptyque, parce que j'ai commencé par écrire un roman très chronologique, au fond, en racontant la vie de Karski, mais j'ai trouvé ça très plat.
Première personne, non ?
Oui, oui, exactement. Puis après, à la troisième, j'ai déchiré, enfin, j'ai mis à la poubelle toutes sortes de versions. Et ce qui m'intéressait, évidemment... comme écrivain, entre guillemets, ce qui m'a intéressé très vite, c'était qu'il y a toute une partie de la vie de Jan Karski qui n'est pas documentée, c'est-à-dire sur laquelle on ne sait rien. Parce qu'évidemment, la vie de Karski, pendant la guerre, disons, avant qu'il devienne le messager des Juifs d'Europe, on peut la connaître par un livre, on va en reparler sans doute, oui, ce soir. Oui. Mais ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment cet homme avait vécu à partir de 1945. Comment cet homme qui détenait un savoir tragique et sur l'extermination des Juifs d'Europe, et surtout, à mes yeux, sur l'indifférence et une passivité terrible, au fond, qu'il avait ressenti, lui, des alliés vis-à-vis de l'extermination des Juifs d'Europe, comment cet homme avait vécu à partir de 1945 jusqu'à 2000, puisqu'il devient quelqu'un, non pas d'ordinaire, mais il devient quelqu'un sans histoire. Et on ne sait presque rien de 1945 à 2000. J'ai réussi à trouver un peu quelques documents aux États-Unis, mais on ne sait presque rien. Et donc voilà, pour moi, je me disais, voilà, le romancier, enfin la fiction, c'est là qu'elle va intervenir. J'étais obligé d'en passer par la fiction à un moment pour pouvoir donner à entendre les zones de l'être et surtout la deuxième partie de l'existence de Karski sur laquelle il n'y avait pas de documentation.
Et alors, pour en revenir à cette forme, donc ce triptyque, c'est déjà une forme qui existait dans certains de tes livres précédents, hein, notamment dans Cercle. Cercle, c'était l'histoire aussi de quelqu'un qui franchissait comme Dante dans la Divine Comédie un certain nombre d'épreuves qui pouvaient se caractériser ici donc par traverser du purgatoire, de l'enfer et du paradis. Là, en l'occurrence, on est dans un tout autre triptyque. Mais bon, il n'empêche que quand on lit le livre, on est très sensible quand même à ce découpage. Alors, tu le justifies au début, tu expliques que ces trois volets sont en trois inspirations très, très diverses. Donc, la première, tu en as parlé, c'est le film de Claude Lanzmann. La troisième, ben, c'est ton imagination sur ce qu'a pu être la vie, la partie de la vie de Jan Karski qui n'est pas documentée, ou très peu. Et la deuxième, c'est un livre de mémoire que Jan Karski a écrit avant la fin de la guerre, lorsqu'il s'est installé, enfin, il ne devait peut-être pas savoir qu'il était définitivement installé aux États-Unis, peut-être à ce moment-là, mais qu'il a écrit après avoir rencontré le président Roosevelt, qui était donc un de ses interlocuteurs, auprès de qui il était mandaté pour transmettre le message de l'extermination des Juifs d'Europe. Et alors peut-être, c'est assez étrange cette histoire de livre, peut-être tu pourrais nous dire quelques mots sur comment il a écrit ce livre, et puis comment ce livre est parvenu jusqu'à nous, et comment il est de nouveau plus disponible d'ailleurs.
Effectivement, Jan Karski, à partir du moment où il est entré dans le ghetto de Varsovie par deux fois, et qu'il est devenu, en août 1942, le porteur du message des Juifs du ghetto de Varsovie, est allé, au péril de sa vie, en traversant toutes les frontières de l'Europe, il est allé d'une part en Grande-Bretagne, puis en Amérique, porter le message. En Grande-Bretagne, dans l'entourage de Churchill, notamment Anthony Eden, ministre des Affaires étrangères, puis à toutes sortes d'intellectuels, puis début 1943 aux États-Unis, où il a eu, comme tu l'as dit, une entrevue avec Roosevelt. Or, il se trouve que la plupart, 95% des entretiens qu'il a eus, ont été décevants, pour le dire faiblement. C'est-à-dire que soit on ne l'a pas écouté, soit on ne l'a pas cru, soit on a fait comme si on ne le croyait pas, on a fait mine de ne pas le croire, parfois on l'a repoussé violemment. Et juste pour vous donner une indication, ça s'est arrivé réellement. Aux États-Unis, quelqu'un qui s'appelle Félix Frankfurter, qui était l'un des juges de la Cour suprême et qui était juif, a écouté le message que Jan Karski a récité, au fond, message dans lequel il y avait entre autres une demande expresse des juifs du ghetto pour que les alliés bombardent les voies ferrées en Allemagne qui menaient au camp d'extermination, je dis au camp en pluriel. Et Félix Frankfurter lui dit « Je ne peux pas vous croire ». Karski réplique « Vous dites que je mens ». Et Frankfurter lui dit cette phrase est très étonnante, il dit « Je ne dis pas que vous mentez, je dis que je ne peux pas vous croire ». Et dans toute la nuance du « je ne peux pas vous croire », il y a à la fois effectivement le caractère d'effarement devant quelque chose qu'on ne peut pas concevoir au fond. Je pense qu'en 1942, le mot « extermination » ne recouvre peut-être aucune réalité pour personne. Enfin, on se demande qu'est-ce que ça veut bien dire, au fond, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est possible de décrire ça? Et d'autre part, ce « je ne peux pas vous croire », on peut y entendre aussi « politiquement, je n'ai pas le droit de faire comme si je vous croyais. Je sais que vous ne mentez pas, mais je ne peux pas. Je suis tenu. » Dans l'ambiguïté de ce « je ne peux pas », moi, quand j'ai lu cette phrase, j'ai commencé à mesurer à quel point Karski était entré dans un nouvel enfer, qui est l'enfer de la conscience. C'est-à-dire cet homme aux États-Unis, on a parlé de lui, c'est quelqu'un d'à la fois très connu et pas connu du tout. On a parlé de lui comme de « the man who tried to stop the Holocaust », l'homme qui a essayé d'arrêter... les Américains disent l'Holocauste, nous on dit plutôt Shoah ou l'extermination. Enfin, parce que dans Holocauste, il y a une dimension sacrificielle qui est un peu fâcheuse. Bref, cet homme, voyant qu'aucune entrevue ne donnait lieu à une décision des politiques, et que même peut-être il y avait une volonté politique très étrange, peut-être on en reparlera, très compliquée, de ne pas faire... pour toutes sortes de raisons terribles, eh bien cet homme a décidé d'écrire un livre, très vite. C'est le gouvernement polonais en exil, le gouvernement polonais à Londres, qui lui a dit « si ça ne marche pas à l'oral, eh bien écrivez un livre, racontez vos mémoires de guerre directement en anglais, en quelques mois, racontez ce que c'est que la Pologne, racontez comment il y a des résistants en Pologne qui essayent de répliquer aux nazis et aux staliniens. Parlez de ce que vous avez vu, racontez amplement le ghetto de Varsovie et publions très vite le livre. » Donc en 1944, ce livre paraît aux États-Unis et c'est un best-seller. 300 000 exemplaires vendus. Jan Karski se retrouve à aller de ville en ville pour en parler. Il fait des conférences. Il est applaudi, les gens l'adorent, le plaignent même en disant « Ah, pauvre Jan Karski », etc. Et il se rend compte très vite que plus il parle, C'est pas que plus il parle, moins on l'écoute, mais il comprend qu'au fond, la plus grande manière, enfin, la nouvelle manière qu'on a de ne pas vraiment écouter quelqu'un, c'est de le laisser parler très longuement. Enfin, il se rend compte de ça. Enfin, certains soirs, il se dit, mais je suis là en train de parler d'un livre, de le signer, de le vendre, et pendant ce temps, l'extermination continue, et il ne se passe toujours rien, et les gens applaudissent, et ils n'y sont pour rien, évidemment. Ces gens viennent l'écouter, sont très émus, mais il se rend compte qu'évidemment, le succès du livre est comme une sorte de perversion, finalement. Enfin, il ne se passe toujours rien. Et voilà, le sort de Karski, et c'est pour ça, comme tu me disais, que j'ai essayé, non pas de me mettre à sa place, mais d'essayer de faire parler son silence, parce que c'est un homme qui s'est tu pendant 35 ans après. On peut le comprendre, à partir de 45, cet homme est... Quand il ouvre le journal en 1945 et qu'il lit « Victory » dessus, il fait partie de ces rares personnes qui comprennent, qui savent, avec une sorte d'écœurement sans doute, que non, que c'est pas possible que ce soit une victoire. Il est impossible qu'un monde... où l'extermination des Juifs a eu lieu, soit un monde qui se dise victorieux. Enfin, pour lui, cette victoire a plus qu'un goût amer, elle a un goût abject, au fond. Et donc, voilà, je me suis dit que cet homme murait dans le silence pendant 35 ans, silence dont Claude Lanzmann va le sortir, en faisant de lui un témoin. Et bien, je me disais que cet homme, au fond, avait, vis-à-vis de ce qu'il pense être une passivité, voire une complicité passive des alliés, il avait des choses à dire. Et voilà, par empathie, je te disais, j'ai travaillé beaucoup d'années à me rapprocher, au fond, de ce que pensait cet homme. Je me suis octroyé ce droit, qui est sans doute scandaleux, mais c'est le droit de la littérature, finalement, mais je le dis avec précaution au début du livre. La troisième partie, puisque les deux premières parties, c'est la documentation, c'est ce que dit Karski à Lanzmann, très scrupuleusement, plan par plan. La deuxième partie, c'est le résumé de ce livre dont je viens de parler, où il raconte comment il a été torturé par la Gestapo, comment il s'est évadé de la Gestapo, comment il s'est évadé également d'un camp soviétique, puisqu'être polonais en 1940, c'est, comme vous le savez, être pris, 40, 41, 42, être pris comme ça dans le pacte, enfin en 40 notamment, être pris en étau dans le pacte germano-soviétique, donc c'est être un abandonné. Et je disais tout à l'heure que cet abandonné a compris qu'il y avait plus abandonné encore que lui.
D'ailleurs, il a échappé de peu au massacre de Katyn.
Oui, exactement.
Donc, les massacres de plusieurs, enfin, 20 ou 25 000 peut-être personnes, donc appartenant à l'élite, entre guillemets, polonaise, c'est-à-dire en fait des gens qui avaient des statuts sociaux plutôt élevés.
Enfin, et c'est des professeurs.
Des professeurs, des intellectuels. Donc, le but était d'éradiquer l'élite de la Pologne, donc de la part de l'Union soviétique. Et il a échappé de peu. Un convoi qui devait l'amener normalement à partager le destin,
oui, puisque
lui-même était un officier, lui-même appartenait à cette catégorie intellectuelle de la Pologne.
C'était un appelé de 26 ans, mais voilà, comme il a formé des. Enfin voilà, on lui a donné un petit grade d'officier. Ouais. Donc c'est effectivement un rescapé de Katyn. Et ce que tu dis, comment dire, la question de Katyn, comme vous le savez, est tout à fait passionnante pour l'histoire du XXe siècle. Parce qu'il y a un immense mensonge d'État, puisque vous savez que Katyn, donc ce massacre, comme tu l'as dit, en 1940, d'à peu près 25 000 Polonais par l'Union soviétique, enfin par les Soviétiques, a été attribué aux nazis. Et les Soviétiques ont fait croire, jusqu'en 1991, date à laquelle Boris Eltsine a enfin apporté la documentation en Pologne et a présenté des excuses, les Soviétiques ont versé la responsabilité de ce massacre sur les nazis avec la complicité des Américains, qui savaient très bien, puisqu'il y a eu une enquête, il y a eu le procès de Nuremberg, comme vous savez, juste après la guerre. Et au procès de Nuremberg, les Américains, après enquête, ont pu voir qu'il s'agissait des Soviétiques qui avaient assassiné ces 20-25 000 Polonais. Mais ils ont laissé faire, ils ont laissé accréditer ce mensonge parce que c'était déjà un arrangement du tout début de la guerre froide. Au fond, il était impossible entre vainqueurs, puisque Staline détenait du coup un pouvoir énorme, il était impossible que Roosevelt, enfin c'était plus Roosevelt d'ailleurs, il était impossible qu'on s'oppose à Staline. Donc cet immense mensonge d'État, je sais que... Pour la Pologne, ça compte énormément. Enfin, c'est quelque chose de crucial. Il y a eu un film de Wajda qui est sorti en France l'année dernière, ou début d'année, sur cette question. Jan Karski, pour moi, est non seulement le témoin, l'un des premiers témoins de l'extermination des Juifs d'Europe, mais il est aussi le témoin crédible de ces autres infamies-là qui sont de l'ordre des arrangements crapuleux dans la sphère du politique. Arrangements qui sont à l'origine de ce qu'on appelle, à partir de 1945, le monde libre. Donc quelqu'un comme Karski, qui est évidemment du côté des Alliés, sait quelque chose sur les Alliés qui est terrible, au fond. Donc pour lui, le parti du bien, c'est une fable, ça n'existe pas. Voilà pourquoi je voulais essayer de faire entendre le silence. Voilà, c'est un étrange paradoxe, mais c'est un peu ça la littérature, de faire entendre le silence de cet homme, parce que son silence en disait long. Et qu'il y a une terrible accusation et des Alliés et de l'humanité même qui est sous-jacente au silence de Karski. Voilà.
Et d'ailleurs, dans la troisième partie, donc celle où tu t'immisces dans les pensées de Jan Karski, il récuse par ta voix, en fait, en quelque sorte, la notion de crime contre l'humanité. Il n'y a pas de crime contre l'humanité, il y a des crimes commis par l'humanité.
Oui, là, je sais que ça va assez loin. Là. Enfin, je veux dire par là que j'ai pensé qu'Jan Karski pouvait en arriver jusqu'à dire ça. À savoir que la notion de crime contre l'humanité lui apparaît presque insuffisante, au sens où la notion de crime contre l'humanité excepterait des zones et des gens et des lieux dans le monde qui, du coup, ne seraient pas responsables. Karski va jusqu'à penser... Peut-être c'est délirant, je ne sais pas, mais il va jusqu'à penser que l'extermination des Juifs d'Europe ne regarde évidemment pas que les Juifs d'Europe ni les Juifs du monde entier, mais regarde l'humanité même et met en cause même l'idée d'humanité. Et qu'à partir de là, on ne peut pas se réfugier derrière la simple notion de crime contre l'humanité, puisqu'au fond, ça voudrait dire que l'humanité est innocente. Et Karski pense... J'imagine qu'il en est arrivé à être tellement désespéré qu'il se met à penser que l'humanité elle-même n'est pas innocente, au fond, qu'elle est criminelle, presque par essence. Si elle a pu, un monde où l'extermination des Juifs d'Europe a eu lieu, ne peut plus être innocent.
Alors pour revenir à ce point de départ... à la fois dans la construction du livre et puis même dans sa forme, qui est justement l'entretien que Jan Karski donne à Claude Lanzmann dans Shoah. Tu dis qu'il s'agit de décrire en fait ce qu'il dit et ce que tu vois avec plan par plan, mais il y a aussi quand même quelque chose qui de fait transparaît. C'est le moment où Jan Karski apparaît physiquement aux yeux du lecteur, c'est-à-dire que même si on n'a pas vu Shoah de Lanzmann, donc cette dernière partie de Shoah, on a l'image d'un homme soumis à la torture par sa propre parole et par sa mémoire, en quelque sorte. Et ça, je trouve que c'est peut-être aussi une des réussites du livre. Est-ce que tu pourrais dire comment tu as procédé ? Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de rendre compte de plans de cinéma, il s'agit aussi d'incarner quelque chose.
Mais c'est vrai que tu as raison, la grande question, enfin, quand on essaye de... comme je l'ai fait, enfin, pas de raconter la vie d'un homme, mais d'essayer de dire quelque chose sur quelqu'un. C'est, que peut-on dire d'un homme ? C'est la question de Sartre. Vous savez, il a écrit une immense biographie de Flaubert qui s'appelle « L'idiot de la famille », qui est stupéfiante, enfin. Et il y avait cette question liminaire. Que peut-on dire d'un homme ? C'est vraiment, pour le coup, une question universelle. Et que peut-on dire d'un homme quand il a vécu, comme Jan Karski, mais également parlé et écrit. C'est encore plus compliqué, parce qu'on ne va pas non plus inventer sans rendre compte de ce qu'il a été vraiment. Et il se trouve qu'effectivement, donc, c'est la question de l'incarnation. Et pour moi, il a été... quand je me suis mis à essayer d'écrire sur Karski, au fond, le moment où j'ai décrit... Comment dire ça ? Quand j'ai pris la décision de décrire exactement ce qu'on voyait, tel qu'il m'est apparu, dans Shoah de Claude Lanzmann, mais effectivement je me suis retrouvé face à quelqu'un qui se dérobe au fond au témoignage, puisque je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu ce moment dans Shoah. Karski commence par se soustraire à la caméra, Et c'est ça qui est très très beau, c'est qu'il ne veut pas être assigné à ce qu'il est de toute manière, c'est-à-dire un témoin. Il ne veut pas retourner en arrière, comme il le dit, parce que Karski parle au présent. On est dans les années 70 et il va parler de ce qu'il a vécu en 42 au présent, c'est-à-dire le passage de quelques heures qu'il fait dans le ghetto de Varsovie. Et moi, ce qui me bouleversait, c'est que en sortant du champ de la caméra, il laisse une place vide et ça va tellement vite que Lanzmann n'a pas le temps de le suivre au départ et filme la place vide. Et c'est cette place vide qui m'a, si je puis dire, autorisé à entrer dans cette histoire de la transmission. Il fallait qu'il y ait quelqu'un, en un sens, c'était moi, ça pourrait être quelqu'un d'autre, au fond. Il fallait qu'il y ait quelqu'un pour... Enfin, il fallait non, il faut rien, mais je me
c'était
suis dit...
C'était possible, à partir
c'était
de
possible,
là.
Voilà, c'était possible, voilà. Pour que cette transmission-là aille jusqu'au début du XXIe siècle. Moi, j'ai une immense admiration pour Claude Lanzmann, mais je me disais, voilà, Shoah, c'est 1985. C'est-à-dire, c'est déjà très, très vieux, en fait. Et... Quand je voyais, que je revoyais sans cesse Shoah, que j'en montrais des extraits à mes élèves, parce que j'étais professeur pendant longtemps, enfin j'ai arrêté il y a 5 ans, mais j'étais professeur de lettres, et quand j'essayais de faire comprendre à quel point il y a des choses irreprésentables, et que la littérature parle, pour moi, par essence, de ce qui est irreprésentable, c'est-à-dire, je sais pas, d'un côté la jouissance érotique, et de l'autre... le massacre, enfin la mort et plus encore l'extermination. Du coup, je leur montrais parfois des extraits de Shoah et de fait cette place vide me hantait. Donc c'est par là que ça a commencé. C'est, je dirais même, je sais pas si c'est bien de dire ça, je dirais même que c'est par cette place vide que j'ai pu entrer dans cette histoire, qu'elle m'a accueilli. En fait.
D'ailleurs, c'est aussi un peu comme ça que Lanzmann fonctionne, parce que quand des témoins montrent les lieux, par exemple au début de Shoah, ils disent c'est là.
Oui, c'est le lieu. Oui.
C'est le lieu, c'est là que ça a eu lieu, et puis il n'y a rien.
Il n'y a rien.
On voit de l'herbe, on voit des... Ouais. Finalement, ça, c'est cette place vide qui...
Oui, et puis c'est la puissance de la parole, c'est ce qu'il y a d'extraordinaire dans Shoah, c'est que il ressuscite quelque chose qu'on ne voit pas. Il fait ressusciter des morts. Il l'a dit, Lanzmann, c'est pour faire réapparaître par les noms les gens qui sont morts, en fait. Et quand au tout début de Shoah, Simon Srebnitz, je crois, le premier témoin, dit « c'est le lieu, c'était là », effectivement, il n'y a rien, et pourtant on voit, parce que la parole donne à voir. Et voilà, pour répondre à ta question... pour raconter cette histoire avec un peu d'intégrité, je dirais, effectivement, j'ai dû en passer par des paliers. Donc un peu comme quand on bâtit une maison, il y a des fondations, ben moi j'ai montré les fondations. Je voulais en arriver à la troisième partie, c'est-à-dire la fiction, à partir de 1945, mais j'ai choisi de laisser effectivement le compte-rendu des 40 minutes de l'intervention de Karski dans Shoah, première partie, 15 pages, puis effectivement de faire le résumé de ce que Karski avait vécu avant, qui est la deuxième partie, de manière à ce que le lecteur, quand il arrive face à ma proposition de fiction, d'une part ne soit pas choqué par l'idée que je me mette à faire de la fiction avec quelqu'un qui a existé, et surtout qu'il ait en main, si je puis dire, tout ce qu'on savait, tout ce qu'on peut savoir sur Karski. Et à partir de là, moi, ce que je propose, c'est une fiction intuitive, une hypothèse qu'on peut recevoir ou ne pas recevoir. Ça, c'est...
Ah, et c'était, il y a quelque chose d'étrange dans la partie centrale, c'est que, alors évidemment, on sait qu'on va vers le nœud du témoignage, c'est-à-dire qui est quand il est invité, il est amené dans le ghetto de Varsovie et puis qu'ensuite il va visiter ce camp d'extermination. Mais avant ça, finalement, la vie de Jan Karski comme courrier, c'est une vie d'agent secret de guerre. Il y a quelque chose de l'ordre un peu du roman picaresque de guerre aussi là. Hein. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui a beaucoup de chance aussi, qui échappe par miracle à plusieurs reprises à un destin tragique, qui s'en sort toujours C'est le héros qui s'en sort. C'est un peu une sorte de, on va dire, de James Bond de la guerre avant, hein, avant qu'on en arrive justement. Est-ce que c'est intéressant ce va-et-vient entre les deux? Ça a quelque chose du roman picaresque, sauf qu'on est dans la plus pure vérité, évidemment.
C'est ce que j'allais te dire. C'est la deuxième chose qui m'a stupéfié, c'est-à-dire qu'il y avait d'abord la noblesse d'âme, comme je l'ai dit tout à l'heure, de cet homme parlant à Lanzmann de ce qu'il a vu dans le ghetto de Varsovie. Et puis quand j'ai découvert que cet homme était un héros, pour dire les choses clairement, et que c'était comme les vrais héros, et qu'il avait une simplicité non héroïque, c'est-à-dire qu'il vivait chaque chose comme ça, comme il le pouvait au fond, j'ai découvert que cet homme effectivement avait fait des choses exceptionnelles, enfin, que c'était comme tu le dis, un trompe-la-mort, mais que c'est quelqu'un qui a été, comme beaucoup de gens en Pologne, et comme beaucoup de gens dans beaucoup de pays, mais il a été un résistant. Et là, j'ai pu mesurer, effectivement, parce que c'est un mot comme ça qu'on prononce, résistant, mais là, j'ai vu ce qu'il le raconte. Et ça, c'est. Et j'attends avec impatience que ce livre soit réédité, parce qu'on ne peut plus le trouver en France. Vous verrez, c'est un livre prodigieux. Enfin, mon témoignage devant le monde, peut-être quelques-uns longs. On voit le fonctionnement vraiment au quotidien de ce que c'est qu'un réseau de résistance. Dans un pays, dans une. Oui, la Pologne, qui est victime d'un double régime policier, vous voyez. Et effectivement, c'est ahurissant de voir à quel point Jan Karski échappe à la mort, mais comme beaucoup de gens à l'époque, mais à chaque minute. Donc c'est quelqu'un qui se révèle à lui-même, en fait. C'est ça qui est prodigieux, c'est que je me suis rendu compte que c'était un jeune homme un peu talentueux, une sorte de jeune intellectuel qui d'origine très modeste, qui se rêve un peu aristocrate, enfin, et qui veut être diplomate. Et puis il y a l'invasion de la Pologne, il y a la mobilisation en 39, et puis c'est n'importe quoi. Ils sont sur des chevaux et en face il y a des chars. Enfin, et évidemment en quelques jours c'est réglé. Enfin.
Mais il refuse de le croire. Jusqu'au dernier moment, il pense que...
Au début, et ça c'est tout à fait attesté par les historiens, les Polonais pensaient vraiment qu'ils allaient bouter Hitler et les Allemands hors de leur territoire, que eux étaient des vrais guerriers. C'est complètement tragique. Enfin, il part à la guerre en blaguant avec les autres dans des trains, en disant bon, il y en a pour 3-4 jours. Et puis ça sera réglé, ce bouffon d'Hitler. Et c'est un anéantissement de la Pologne, en fait. Et à partir de là, à partir de ces épreuves, Karski devient quelqu'un. Effectivement, et ça c'est bouleversant, je dirais, humainement. Enfin, il ne s'agit pas seulement de la guerre. Enfin, c'est quelqu'un qui sans cesse se métamorphose jusqu'au jour où, je le redis, en fait, en août 42, il va vraiment devenir Jan Karski. Quand il va être face à ce qu'il imaginait tout à fait impossible. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce livre par son nom. Moi, je voulais sonder ce mystère de ce qu'il y a dans un nom. Qu'est-ce que c'est quelqu'un ? Et je voulais rendre hommage à Karski. Je voulais très simplement, je le dis avec joie, que des gens prononcent le nom de Jan Karski, que quand on arrive dans une librairie, et moi j'ai eu la joie d'entendre ça quelques fois, j'étais dans la librairie à côté, et j'ai entendu quelqu'un dire « je voudrais Jan Karski ». Et ça m'a complètement ému, je me suis dit « ça y est, voilà, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là, pour qu'on prononce le nom de Jan Karski, presque de manière, je ne sais pas, ça lui redonne vie à chaque fois ». Mais son livre, c'est pour ça que je disais qu'il faut absolument le lire. J'espère que ça va être édité. Enfin, je vais tout faire pour que Gallimard l'avait refusé. J'étais un peu consterné. J'ai appris ça à l'époque, en 2004. Et il faut le lire parce qu'on voit vraiment, effectivement, on voit à quel point... c'est une banalité de dire ça, je suis désolé, mais c'est ce que vous dites me remet, disons, dans ce livre... On voit à quel point des hommes, des femmes, des tout jeunes gens, en fait, constituent ce qu'on appelle un réseau de résistance. Enfin, c'est une chose extraordinairement organisée, chaque jour, etc. Et effectivement, c'est une hécatombe. Enfin, ils meurent presque tous, la résistance polonaise. Et puis, il y a l'insurrection de Varsovie en 44 qui va faire en sorte que... Presque tous les Polonais résistants meurent. Enfin, il y a très peu de survivants. Là, on est, Il y a 200 000 Varsoviens qui sont anéantis. Enfin, avec, comme vous le savez, les Soviétiques qui attendent de l'autre côté de la Vistule, bras croisés, en attendant que les nazis finissent le travail. Les avions américains, anglais qui n'arrivent pas, qui ne sont jamais arrivés. Donc l'abandon de la Pologne, c'est pas un mythe, en fait. C'est vraiment quelque chose. Il y a l'abandon des Juifs d'Europe qui est sans comparaison. Mais le témoignage de Karski porte aussi sur l'abandon étrange de ce pays, enfin, avec toute la complexité de ce pays, au fond.